Nous allons mettre un terme aux régimes spéciaux.
Je pense que les régimes spéciaux, aujourd'hui, ne sont plus défendables.
Comment justifier, dans une société pétrie d'équité, que le chauffeur de bus à Bordeaux n'ait pas la même retraite que le chauffeur de bus à Paris ?
Que vous conduisiez le métro à Paris ou à Marseille, la justice des caisses de retraite ne sera pas la même. Les agents de la RATP bénéficient aujourd'hui de conditions de départ beaucoup plus avantageuses que leurs collègues de province et d'une pension autrement plus confortable. Ce qui est vrai pour le métro est vrai pour les trains, pour la voirie, pour les agents de la Banque de France ou encore pour les électriciens et les gaziers. Ce sont ces régimes spéciaux que le gouvernement entend aujourd'hui remettre à plat pour basculer vers un système de retraite dit universel. Et considérant que ces régimes spéciaux sont des régimes de privilégiés. Bonjour Michel Pigenet.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université de Paris 1. Est-ce que les régimes spéciaux de retraite sont des régimes de privilégiés ?
C'est ce qu'on dit. Et c'est parfois ce qu'on dit aussi les intéressés. En 1909, Guérard, qui est le dirigeant du syndicat des cheminots, invite ses camarades à faire très attention. Il leur dit « Vous êtes des privilégiés, mais c'est la raison pour laquelle vous devez lutter à côté des autres salariés pour qu'ils obtiennent les mêmes avantages que vous. »
Combien il y a de régimes spéciaux aujourd'hui en France ?
Alors on dit 42. Ces régimes spéciaux ont une longue histoire qui remonte au XVIIe siècle, qui vient de l'État et qui intéresse au premier chef le cœur régalien de l'État, c'est-à-dire l'armée. Dans le régime de monarchie absolue qui se met en place, le souverain a besoin de loyauté et d'abord de ceux qui portent les armes pour lui. C'est le point de départ. Le point de départ, il a même un lieu, on pourrait dire, dans Paris, c'est l'hôtel des Invalides, qui recueille les militaires blessés ou trop âgés. Et puis, de cette création, en 1670, va naître, à la fin du XVIIIe siècle, avant la Révolution française, un régime de pension pour les militaires. Et ensuite, la Révolution arrive et ce système va s'étendre aux serviteurs ou aux agents civils de l'État dès 1790. Ça marche plus ou moins bien, les financements sont plus ou moins assurés. Pour l'armée, ils le sont, mais c'est à partir de 1853, c'est pour les fonctionnaires civils. Mais dès 1845, la compagnie du Paris-Orléans, compagnie de chemin de fer, a été la première à créer à sa propre initiative un régime de pension pour ses salariés. Elle doit s'assurer la fidélité de son personnel, elle doit attirer, on ne prend pas les mouches avec du vinaigre, les conditions de travail ne sont pas très faciles, et donc pour attirer et pour fixer son personnel, elle crée un certain nombre d'avantages, dont celui d'une pension de retraite.
À quel moment justement ce système se généralise à l'ensemble des salariés ?
Pendant longtemps, on a des régimes pionniers. En 1910 est institué ce qu'on appelle les retraites ouvrières et paysannes. 1910 seulement, c'est-à-dire très en retard par rapport à l'Allemagne qui a mis ça en place dès 1889. Et on crée donc un système obligatoire d'assurance, c'est-à-dire que l'on cotise à la fois les employeurs et les salariés pour bénéficier d'une retraite. Mais à l'époque, d'une, elle n'est pas très élevée, deux, surtout, en 1910, elle n'est accordée qu'à partir de 65 ans. Alors ça va être très vite abaissé à 60 ans, mais il y a 94% des ouvriers qui sont morts à 65 ans. Donc c'est une retraite, la CGT à l'époque le dit, pour les morts. Ça ne marche pas très bien. En plus, c'est une retraite par capitalisation. La guerre va arriver là-dessus, l'inflation, et les retraites seront laminées. Il faut attendre 1928 pour que se remette en place un nouveau système d'assurance retraite, entre autres, parce qu'il y a aussi la maladie, mais c'est une autre chose.
Cette assurance retraite qui se met en place en 1928, elle dessine déjà les grandes lignes de ce que l'on connaît aujourd'hui, avec des traitements différents selon que l'on travaille dans la fonction publique ou que l'on fait partie bien du privé.
Dès ce moment, et ce sera confirmé en 1945-46 avec la création de la sécurité sociale, qui est plus avantageuse que les assurances sociales de 28-30, plus encore que 1910. Mais dans la situation de la France qui sort de la Deuxième Guerre mondiale exsangue, littéralement, les conditions économiques sont épouvantables, il est envisagé une retraite universelle. Mais on n'a pas les moyens. Et d'autre part, il y a des réticences. en particulier les professionnels indépendants, n'en veulent pas parce qu'ils craignent d'être la vache à lait d'un régime général. Et puis d'autre part, il y a déjà donc ces régimes pionniers qui sont plus avantageux que ce que la sécurité sociale peut offrir en 45-46. Et donc, on ne veut pas aligner par le bas, on maintient ces régimes spéciaux sans écarter l'idée qu'à terme, le régime général montera vers les régimes spéciaux, ce qui ne s'est pas produit.
Aujourd'hui, Michel Pigenet, quand on regarde effectivement ces 42 régimes et les aberrations que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, pour une même profession, les traitements vont être différents selon qu'on appartient à une entreprise publique parisienne ou qu'on appartienne à un réseau de transport privé en province. Est-ce qu'ils sont encore justifiés au regard de la façon dont ils étaient instaurés historiquement ?
On va prendre le cas de la RATP. Dès les années 50, il y a des projets de réforme de la RATP. Et en coulisses, le PDG de la RATP n'en dit rien publiquement, mais en coulisses, il explique au gouvernement que si l'on veut continuer à attirer du personnel et à le maintenir, il faut maintenir ses acquis, qui sont la contrepartie. Alors, vous avez évoqué la pénibilité, mais qui sont aussi la contrepartie d'autres désavantages. Par exemple, le fait que les salaires à qualification égale sont inférieurs dans le secteur public, qui est devenu public à la Libération, mais qui ne l'était pas forcément auparavant. Il y a des compensations par la retraite ou par exemple pour la maladie et autres, qui viennent en contrepartie d'autres choses qui sont moins avantageuses. Alors ça ne vaut pas que pour la retraite, mais c'est une expression qui a cours. On dit « pain dur, mais pain sûr ».
C'est-à-dire qu'ils ont été finalement une sorte d'atout, d'attrait pour des carrières qui étaient des carrières qui n'étaient pas forcément attractives en tant que telles, avec des niveaux de rémunération qui étaient des niveaux de rémunération qui ne pouvaient pas comparer à ceux que pouvait proposer le privé, par exemple.
C'est une forme de paternalisme.
Aujourd'hui, on voit bien que, évidemment, tout ça est remis en question, qu'on arrive à ces aberrations. On parlait de la RATP. C'est vrai, par exemple, pour les aides-soignantes. Des aides-soignantes du public, par rapport au privé, vont avoir des différences de traitement. Ça veut dire que on peut aujourd'hui considérer que ces régimes spéciaux ne sont plus à l'ordre du jour dans une société contemporaine et par rapport à l'évolution, justement, de ces carrières et de la pénibilité.
Alors, deux choses. Il y a une première chose qui est-ce que l'universalité et en quelque sorte une égalité de conditions est justifiable ? Évidemment, oui. Elle est d'ailleurs dans les gènes de la sécurité sociale, qui la prévoit pour plus tard. Et d'ailleurs, les indépendants ont rejoint la sécurité sociale et loin d'être les vaches à lait du régime général, c'est l'inverse qui s'est produit pour la plupart d'entre elles. Donc ça, c'est une première chose. Mais la question est de savoir si on aligne par le haut ou par le bas. Et dans le cas des salariés qui bénéficient de ces régimes spéciaux. Alors après, il y en a 42, il faudrait voir point par point, détail par détail. Mais ce que l'on peut dire, c'est que ça fait partie, en quelque sorte, du contrat. On entre à la SNCF, où on entrait autrefois à Électricité de France, en se disant, bon, je démarre petit, mais j'aurai d'une une carrière, deux, j'aurai la retraite. Ça faisait partie de ce qu'on expliquait tout à l'heure, le deal, la contrepartie.
Un tout dernier mot rapidement, Michel Pigenet. Il y a aussi un peu deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'il y a des régimes spéciaux auxquels on ne touchera jamais, les militaires, les sénateurs, et puis d'autres qu'il faut, au contraire, plutôt refaire venir dans un régime universaliste.
Mais tout est envisageable. Voilà, mais ça, je ne suis pas aux manettes.
Merci beaucoup, Michel Pigenet. Je rappelle que vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Paris 1. Les idées claires, c'est une émission de Nicolas Martin, coordonnée par Aurélie Boiseau, avec à la technique aujourd'hui Souad Boukorsa et à la réalisation Luc-Jean Rémy.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.